Leçon 6. Aide complémentaire créée. Genèse 1 nous présente une vue d'ensemble de la semaine de la création, son enseignement sur l'image de Dieu chez l'homme et la femme, ainsi que le mandat universel, sont le fondement de l'aspect gestionnaire que nous venons d'étudier. Genèse 2 amplifie le sixième jour de la création. Ce second récit de la création nous donne des détails très riches sur la création de l'homme, de la femme, sur le premier foyer, le premier travail et le premier mariage. Ainsi, Genèse 2 nous fournit le deuxième passage définissant la femme, et en tant que telle, est le fondement de l'aspect aide complémentaire de la femme, le deuxième des cinq aspects décrits dans ce cours. Alors que l'aspect gestionnaire se concentre sur la relation de la femme à Dieu, l'aspect de l'aide complémentaire se focalise sur la relation de la femme à l'homme. Les différentes harmonies des évangiles mélangent les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean pour en faire une histoire chronologique de la vie de Jésus qui soit la plus complète possible. Nous pouvons faire la même chose avec Genèse 1 et 2. Revivons la première journée d'Adam et Ève, le sixième jour de la création, en utilisant les détails donnés à la fois en Genèse 1 et en Genèse 2. Le récit commence un peu comme ceci. Tôt le matin, Dieu crée les animaux. Puis, quelque part hors du jardin d'Éden, Dieu prend de la poussière de la terre et forme un être humain, un corps masculin. Dieu souffle dans ce corps humain un esprit, un souffle de vie, et ce corps, fait de la poussière, rempli d'un esprit venant directement de Dieu, devient Adam, la première âme vivante. Puis, Dieu marque les limites d'Éden et plante un jardin dans ce nouveau territoire. La Bible dit que Dieu place l'homme dans le jardin. Adam marche peut-être du lieu où il est créé jusqu'au jardin, ou bien Dieu le transfère là miraculeusement. Nous ne le savons pas. Le fait est qu'au début, Adam n'est pas dans le jardin. Il est créé ailleurs et conduit par Dieu jusqu'à son territoire. Notons que Dieu est le premier à placer les bornes, à nommer des choses et à cultiver la terre en plantant un jardin. Il est le premier cultivateur de la terre, le premier jardinier. Dieu conduit Adam jusqu'à son territoire, lui apprend à parler et commence à lui montrer le jardin. Il donne à Adam des commandements spécifiques et la mission de protéger et de garder le jardin. Dieu est le père d'Adam, son roi, son patron, son maître, son entraîneur et son employeur. Avec tous ses rôles, il met Adam au boulot. Pour le démarrer dans son travail, Dieu donne à Adam une tâche avec un double objectif. Dieu avait commencé à attribuer des noms. Lorsque nous lisons Genèse 1, nous voyons qu'il nomme la terre, le ciel, le jour et la nuit. Pour Adam, ce travail de nommer les choses en tant que vice-roi de Dieu est une initiation à diriger le royaume animal en discernant la nature des animaux et en les classant en catégories. Cependant, Dieu a aussi un autre objectif pour Adam en lui donnant cette tâche. Dieu sait qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il semblerait qu'Adam n'en ait pas encore conscience. Dieu, lui, sait que Adam n'est pas complet. Il n'est pas suffisant pour être et faire tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Adam se rend probablement compte en remarquant que tous les animaux sont par paire, qu'il ne fait pas partie d'une paire. Il est unique et tout seul. Adam a une relation avec Dieu, il a une relation avec les animaux, mais il n'a aucune relation humaine, comme le dit le texte. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dieu et Adam discutent peut-être de la situation, et Dieu lui dit quelque chose du genre « Je vais te donner une compagne, je vais te donner une aide, mais tu vas devoir collaborer avec moi. Tu vas devoir me faire confiance et être prêt à t'endormir, à mourir d'une manière figurative. Laisse-moi te prendre la vie pendant un court instant. Laisse-moi t'ouvrir le côté et prendre une partie de ton propre corps, de ta propre chair et de tes propres os. De ce début, je vais créer quelqu'un spécialement pour toi. » Il semblerait qu'Adam soit prêt à renoncer à sa vie temporairement pour obtenir une compagne. Que cette conversation ait réellement eu lieu ou non, toujours est-il que Dieu endort Adam, ouvre son côté, prends un peu de chair et d'os. » Mais il ne laisse pas Adam là avec un trou béant dans son côté pendant qu'il crée Ève. Le texte dit que Dieu referme la chair à sa place. Il finit avec Adam en le remettant en état avant de commencer à créer la femme. Dieu prend un peu de chair et d'os d'Adam et fabrique le premier corps féminin. Le texte ne le dit pas de façon explicite, mais nous supposons que Dieu insuffle un souffle de vie dans la femme également. Il met un esprit en elle et elle devient une âme vivante. Adam ne participe pas à ce travail. Il est sur le côté, sous un arbre peut-être, et peut-être aussi commence-t-il tout juste à se réveiller. Le texte dit « Dieu amena la femme vers l'homme ». Le mot « amener » a un sens général, mais il est parfois employé pour apporter un présent pour honorer quelqu'un ou une offrande à Dieu. Dieu amène la femme à l'homme. Nous pouvons imaginer Christ, dans sa forme pré-incarnation, prenant cette nouvelle créature par la main et la présentant à l'homme. Adam répond avec la première phrase poétique de l'histoire. Dans le verset 23, il dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Le texte originel est rempli d'excitation, d'émotion et de pronoms personnels qui peuvent être paraphrasés ainsi. « Oh, c'est moi, c'est ça, elle vient de moi, elle est comme moi, elle est pour moi, c'est une femme. » Il y a donc une grande joie chez l'homme lorsqu'il reçoit le cadeau de la main de Dieu, la femme. Celui-ci laisse probablement à Adam et à la femme du temps pour faire connaissance. Peut-être parle-t-il de leurs expériences de création. Leurs expériences diffèrent un peu, mais se ressemblent sur un point spectaculaire. Adam et la femme se sont tous les deux réveillés dans la main de leur Créateur. Ce qu'ils ont vu en premier est Dieu lui-même et le monde autour d'eux. Premièrement, nous sommes créés pour Dieu, et deuxièmement, nous sommes conduits l'un vers l'autre. Dans le cas de la femme, cela s'enchaîne rapidement. Elle est créée, puis conduite vers l'homme. La première relation humaine de toute l'histoire a eu lieu dans ce jardin. Adam raconte peut-être à sa nouvelle compagne « J'ai goûté de ce fruit, j'ai nommé cet animal de telle manière. Nous ne sommes pas censés manger de cet arbre, mais nous pouvons manger de tous les autres arbres. » Elle peut accueillir ces informations à deux niveaux. Tout d'abord, étant une créature à l'image de Dieu, créée pour dominer la terre pour lui, elle est très intéressée par les animaux, les oiseaux, les plantes et le jardin en eux-mêmes. Cependant, elle trouve qu'Adam est fascinant et intéressant d'une manière unique. Elle écoute donc à deux niveaux. Elle apprend les informations objectives qu'Adam lui donne sur le monde, et à un autre niveau, elle l'étudie, lui. Sa manière de parler, son sens de l'humour, ses yeux, son allure, ce qu'il fait, sa façon de bouger, tout. Car elle a été tirée de lui et elle est faite pour lui. Créée de l'homme et pour l'homme, elle a une capacité spéciale de se concentrer sur lui et sur sa personnalité. Après tous ces événements, Dieu procède au premier mariage. Dans ce cas particulier, le père de la mariée est aussi le père du marié et celui qui a l'autorité souveraine. Il a l'autorité de procéder à la cérémonie du mariage et dans ce cas non seulement de procéder au mariage, mais aussi d'instituer le mariage pour tous les temps. Il donne la mariée, sa propre fille, à son fils Adam, en proclamant que désormais les deux formeront une seule chair. C'est probablement après le mariage que Dieu charge le couple d'exécuter le grand mandat universel de Genèse 1, verset 28. À la fin de la journée, il les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu crée l'homme, puis la femme, et enfin il les unit par le mariage. C'est maintenant aux deux, au couple marié, mâle et femelle, homme et femme, époux et épouse, qu'il donne l'immense autorité et le défi de dominer le monde pour lui. Car c'est seulement ensemble qu'ils peuvent le faire. C'est ce que nous savons du premier jour de l'espèce humaine. Le Larousse définit le contrepoint comme un système d'écriture musicale qui a pour objet la superposition de deux ou plusieurs lignes mélodiques. Une autre définition serait la combinaison de deux mélodies indépendantes en une seule harmonie dans laquelle chacune conserve son caractère de base. Quelle belle définition de la sexualité humaine telle que Dieu l'a créée. Adam se tenait dans le jardin telle une mélodie indépendante, claire et belle. Mais sa mélodie, aussi belle soit-elle, manquait de profondeur. Cette mélodie était seule. Puis Dieu a composé une autre mélodie indépendante avec son caractère propre. Cette seconde mélodie a été créée en contrepoint de la première. Quand Dieu a amené la seconde mélodie pour la combiner à la première, le jardin s'est empli d'une harmonie encore plus belle et pleine que chacune des mélodies prises seules. Puis le divin compositeur a été satisfait que son travail soit achevé et soit très bon. Nous devons souligner que l'homme et la femme sont semblables. Notre similitude rend possible toute la gamme merveilleuse de nos relations. Nous venons tous les deux de Dieu, nous avons la même mission, nous avons un esprit, une conscience, une volonté et une personnalité à l'image de Dieu. Nous mangeons la même nourriture, traversons les mêmes sentiers et utilisons les mêmes outils. Nous sommes tous les deux en dessous de Dieu et des anges, et tous les deux au-dessus de la terre et des animaux. La similitude entre l'homme et la femme est vaste et fondamentale à notre partenariat et à notre travail d'équipe. Nous avons mis l'accent sur ces éléments communs dans l'aspect gestionnaire pour Dieu que nous avons étudié en premier. Ce n'est pas par hasard que nous étudions cet aspect en premier. Nous ne voulons jamais nous détourner de la valeur commune et égale de l'homme et de la femme créés tous deux à l'image de Dieu. Cependant, une autre partie de nos relations est basée sur le fait que l'homme et la femme sont très différents. Pour être des chrétiens bibliques, nous devons nous accrocher à ces deux vérités. L'homme et la femme sont égaux dans leur humanité, tous deux entièrement à l'image de Dieu, et sont pourtant fondamentalement différents dès le début. Nous pouvons voir une ébauche de ces différences en Genèse 2. Si on examine de près le chapitre 2, on voit les différences suivantes. L'homme est tiré de la terre elle-même. La femme est tirée d'une personne. L'homme est tiré de la terre et conduit jusqu'à la terre, au jardin où il commence son travail. La femme est tirée de l'homme, conduite vers l'homme et commence son travail là, à ses côtés. C'est l'homme seul qui est mandaté pour s'occuper du jardin avant que la femme existe. L'homme est averti de la mort avant que la femme existe. L'homme donne un nom à la femme lorsqu'il dit « On l'appellera femme, elle a été tirée de mon côté ». La femme est celle à qui un nom est donné. Elle reçoit une part significative de son identité à partir de sa relation avec son homme. La femme est un cadeau de Dieu à l'homme. L'homme devrait être celui qui initie le mariage. L'institution originelle du mariage se trouve au verset 24 qui dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Adam n'a pas de père ou de mère humain. Dieu est son père, et la terre est sa mère figurative. Mais ce verset ne concerne pas seulement Adam et Ève, il donne l'institution du mariage pour tous les temps. Le modèle est le suivant. L'homme doit initier le mariage en quittant ses parents pour s'unir à sa femme. Beaucoup de gens revendiquent qu'on ne peut dire aucune vérité absolue concernant la sexualité, parce qu'il y a trop de diversité culturelle. Il y a des différences culturelles, mais on ne devrait pas les utiliser pour effacer les catégories universelles de l'homme et de la femme que Dieu a données. Dieu a créé l'homme avec des caractéristiques masculines et la femme avec des caractéristiques féminines qui transcendent l'histoire et la culture. On peut voir les racines de certaines de ces caractéristiques fondamentales en Genèse 2. Les hommes ont tendance à être axés sur la matière. Les femmes ont tendance à être axées sur les gens. En règle générale, les hommes, plus que les femmes, sont intéressés par les choses, par les forces impersonnelles de la nature, les machines, les idées abstraites et la pensée scientifique. Par ailleurs, les femmes ont plus tendance à s'intéresser davantage aux gens, aux relations, aux sentiments, aux nuances de la conversation. Ce n'est pas tiré par les cheveux de voir un lien entre ces caractéristiques et Genèse 2. L'homme est tiré de la nature pour être axé sur la nature. Il est tiré de la terre et conduit jusqu'à la terre pour la cultiver. La femme, de son côté, est tirée d'une personne et pour les gens. Elle est tirée de l'homme et conduite vers l'homme pour commencer son travail à ses côtés. Elle est faite suivant un processus en deux étapes. Un peu de terre est formée en chair humaine, puis la chair humaine est formée en un corps féminin. Ces deux étapes sont des miracles divins. Elle est, et devrait être, un récipient plus raffiné et plus délicat. Les hommes sont comme des pots en argile brute destinés à un travail plus rude, souvent à l'extérieur. Les femmes sont comme des vases délicats destinés à un travail plus sensible et personnel, généralement à l'intérieur. Les hommes ont tendance à être objectifs, ils sont axés sur ce qui est. Les femmes ont tendance à être subjectives, elles sont axées sur ce que les gens ressentent au sujet de ce qui est. L'homme va remarquer que le courrier est en retard, la femme va remarquer que le facteur est déprimé. Les deux points de vue sont valables. Ils sont tous les deux importants, mais ce ne sont pas les mêmes points de vue. Ce sont des points de vue complémentaires. Les hommes ont tendance à être orientés sur les tâches à accomplir et les femmes sur les relations. Les hommes ont tendance à prendre des risques. Dieu a conduit Adam d'un lieu indéfini vers un nouvel endroit où il devait démarrer un travail sous l'autorité de Dieu. Les hommes sont créés pour prendre des initiatives, innover, aller de l'avant, aller à la conquête. Ce sont ceux qui, depuis le commencement, doivent quitter leur foyer pour en construire un nouveau. Les femmes sont plus orientées sur la sécurité. Ce n'est pas par hasard si Ève est créée dans un jardin. C'est un endroit sûr et délimité. Il y a déjà un homme qui s'y trouve. Dieu est là. C'est un endroit agréable. Le désir de prendre des risques pour gagner plus et le souci de protéger ce que l'on a sont des impulsions qui sont toutes deux valables. Aucune famille ni aucun peuple ne pourra perdurer sans ces deux motivations fonctionnant en harmonie. Nous ne pouvons pas analyser toutes les tendances masculines et féminines. Le fait à souligner est que la Bible enseigne que l'homme et la femme sont égaux dans leur humanité et différents dans leur sexualité. L'égalité et les différences sont antérieures à toutes les cultures parce qu'elles ont leur source dans la création elle-même, comme elle est révélée dans Genèse. Le reste de cette leçon concerne trois sujets. Comment la femme aide l'homme, en partenariat, leur relation et la direction de l'homme. En premier lieu, Dieu a créé l'homme. Puis, il a créé la femme à partir de l'homme. Ensuite, il a créé le mariage en tant qu'une seule chair en les mettant ensemble. Dieu n'a pas créé un pote ou un compagnon pour Adam. Dieu lui a créé une épouse, quelque chose de bien plus compliqué et merveilleux à la fois. Jésus dit en Matthieu 19, verset 6, que Dieu est celui qui unit l'homme et la femme, qu'ils deviennent un, en avertissant que cette union ne devrait pas être brisée ou rompue par l'homme. La relation entre le premier homme et la première femme est exclusive et monogame. C'est un homme pour une femme. Nous n'avons là ni polyandrie ni polygamie. Dieu n'a pas créé de mariage entre deux personnes du même sexe en formant un clone qui puisse former une paire avec Adam. Dieu a créé un homme pour une femme avec l'intention, l'ordre et la bénédiction que les deux deviennent et restent une seule chair. S'il n'était pas bon que l'homme encore innocent qu'était Adam soit seul, à quel point les hommes pécheurs ont-ils besoin du cadre du mariage et d'une épouse pieuse pour les aider? Dieu a créé la femme pour ne former qu'un avec l'homme, dans le but d'atteler, de focaliser, de maintenir ses instincts, ses efforts et sa virilité pour l'avenir. Le mythe du célibataire libertin est une illusion. Les hommes mariés sont plus productifs, responsables, ils ont une meilleure santé et vivent plus longtemps. Par ailleurs, les hommes célibataires gagnent moins pour les mêmes diplômes, sont plus souvent malades, violents et suicidaires. Ils ont plus de chances d'être en hôpital psychiatrique ou en prison, et ils meurent plus jeunes. L'acte conjugal est la consommation du mariage. Dans le dessein de Dieu, l'union sexuelle est propre au mariage et le définit. Étant la culmination et la représentation symbolique de la relation mariée, elle est l'essence d'une productivité commune. Elle constitue le droit inaliénable du mariage et ne peut moralement être associée à toute autre forme de relation. Lorsque les gens passent de l'adoration de Dieu à l'adoration de soi, leur manière de gérer leurs pulsions sexuelles donne le meilleur présage de leur avenir. Par cette seule décision, une société décide si son orientation principale sera la maîtrise de soi ou l'autosatisfaction, et si son objectif final est la bénédiction à long terme de la famille, de la nation et de Dieu, ou bien le plaisir à court terme de l'individu. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte, dit Genèse 2, verset 25. Sans vêtements, voile ou bouclier, Adam et Ève, qui n'avaient pas encore péché, goûtaient à une relation parfaitement ouverte l'un à l'autre et n'éprouvaient aucune honte dans la relation sexuelle et personnelle du mariage. Il n'y avait aucune cassure dans la communion parce qu'il n'y avait aucune cassure dans la confiance. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la confiance a été tragiquement brisée et nous verrons ensuite comment l'intimité parfaite a été brisée. Cependant, dans l'idéal créé, la relation entre l'homme et la femme était caractérisée à la fois par l'exclusivité et l'intimité. De nos jours, en dépit de notre condition déchue, la plus grande stabilité psychosexuelle, la plus grande paix et le plus grand épanouissement se trouvent chez les personnes mariées. De nombreuses personnes qui honorent les voies de Dieu, même de manière imparfaite, découvrent un monde privé dans le mariage où notre lit conjugal, notre foyer, nos enfants, nos possessions et toute notre vie ont un vrai sens. En effet, Hébreux 13, verset 4 dit « Que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Peu importe ce que les partisans de l'amour libre peuvent affirmer, il n'existe pas de sexualité en dehors du mariage sans culpabilité ni honte. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs qui se trompent eux-mêmes et dont la conscience est endurcie et même verrouillée. Genèse 2, verset 5 nous dit qu'il n'y avait pas d'agriculture avant la création d'Adam parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le mot traduit ici par « cultiver » est un simple mot qui signifie « travailler » ou « servir ». Depuis le commencement, l'homme a été créé pour travailler la terre. Cependant, avant la malédiction, Dieu a donné à Adam le mandat du jardin, comme nous l'avons vu. Ce mandat a deux commandements. Tout d'abord, de travailler, cultiver. Et deuxièmement, de garder, entretenir, le jardin. Je dois à mon mari de m'avoir fait remarquer que Dieu a donné à Adam un travail plus grand que ce qu'il ne pouvait accomplir tout seul, le travail de garder et entretenir. Ainsi, le texte nous donne un indice expliquant pourquoi il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il était premièrement un cultivateur, pas quelqu'un qui garde et entretient ce qui a été gagné. Quand Dieu a créé la femme et l'a amenée à l'homme, il lui a donné une aide complémentaire parce qu'elle était tout spécialement équipée pour faire ce pourquoi Adam ne l'était pas. Ensemble, ils pourraient accomplir le travail que Dieu leur avait donné. Au cours de l'histoire, c'est souvent l'homme qui part pour développer et conquérir, alors que la femme reste en arrière pour garder et entretenir. Toute la conquête du monde a suivi ce modèle. À travers les siècles, les hommes ont cherché à découvrir le monde en naviguant sur les mers, en traversant des montagnes et des vallées. Pratiquement à chaque fois, les épouses des explorateurs sont restées à la maison. Les hommes sortent pour découvrir des choses, puis reviennent avec de la nourriture, de nouvelles connaissances, des biens marchandés ou d'autres richesses. Pendant ce temps, les femmes entretiennent les biens, la famille et toutes sortes de choses qu'ils possèdent déjà. En Deutéronome 3, versets 16 à 20, Dieu dit que les Rubénites capables doivent traverser le Jourdain pour aller aider leurs frères à conquérir Canaan, mais leurs femmes et enfants peuvent rester avec les troupeaux, gardant le territoire que les Rubénites et les Gadites ont déjà reçu, sur la rive droite du Jourdain. Ainsi, leur héritage serait préservé pour leur retour. Qu'est-ce qui est le plus important? Conquérir ou entretenir? Obtenir ou garder? 1 Samuel 30 répond à cette question importante. Voici la scène suivante. Le camp de David ayant été pillé, 400 hommes vont récupérer leurs possessions et 200 restent avec les bagages. Il y a donc ceux qui vont à l'extérieur pour obtenir davantage et ceux qui restent pour garder ce qu'ils ont. Lorsque les 400 hommes reviennent, certains d'entre eux disent que ceux qui sont restés ne devraient pas avoir la même récompense que ceux qui sont sortis. C'est une attitude très courante de nos jours. beaucoup pensent que sortir à l'extérieur a plus de valeur que rester en arrière. La Bible dit que non. Le roi David dit non. Au verset 24, il dit « La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Et ce n'est pas un événement unique et exceptionnel, comme dit le verset 25. « Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. » Le même principe est mentionné en Josué 22, verset 8, quand les combattants rubénites rentrent chez eux après la conquête de Canaan. Ces combattants reçoivent l'ordre de partager leur butin avec ceux qui sont restés à la maison. La vérité est que le fait d'entretenir est un travail tout aussi important que de gagner plus. Si vous surestimez le fait de gagner plus, c'est comme si vous vous efforciez de remplir un seau percé au fond. Vous gagnez toujours plus, mais sans garder, entretenir ou protéger ce que vous avez déjà. Et donc vous perdez tout. Les deux sont nécessaires. Quelqu'un qui gagne plus et quelqu'un qui garde ce qu'on a déjà. Si vous pensez que le travail d'une femme au foyer a moins de valeur que celui de son mari médecin ou de son mari mineur, alors votre point de vue est erroné et non biblique. Conquérir et entretenir sont de valeur égale. Par conséquent, si une femme ne faisait rien d'autre que de rester avec les choses acquises, aux yeux de Dieu, son travail aurait la même valeur que d'obtenir davantage. Cependant, comme nous allons le voir, la femme accomplit bien plus que de simplement garder et entretenir, tout aussi important que cela soit. Son travail n'est pas simplement de maintenir la valeur de ce qui a été gagné, son travail ajoute une plus-value. Le principe se voit dans le modèle où l'homme commence un travail et la femme le complète. Prenez par exemple la construction d'une maison. Généralement, ce sont les hommes qui creusent les fondations, coulent le ciment, montent les murs et enfoncent les clous. Si c'est un gratte-ciel, ce sont eux qui se servent de poutres en acier pour la construction. Les hommes s'intéressent au chauffage, à la climatisation, à la plomberie, etc., pour résister aux forces de la nature. La plupart des décorateurs intérieurs sont des femmes. Elles s'occupent des couleurs, des tableaux, des coussins et des tapis. Elles rendent le bâtiment vivable pour les êtres humains. Que faire si vous aviez l'un sans l'autre? Que faire si vous n'aviez que le ciment, les murs et le toit? Même si vous les aviez, vous auriez quand même un niveau de vie très bas. Aimeriez-vous vous asseoir sur un sol de béton pour manger? Même si vous n'aviez qu'un tas de coussins, de tableaux et de pots de fleurs, vous n'auriez pas non plus un niveau de vie équilibré. Nous avons besoin des deux, ensemble. Nous suivons très souvent ce modèle. Les hommes commencent quelque chose et les femmes le finissent. Historiquement, la plupart des inventeurs, des compositeurs et même des chefs cuisiniers ont été des hommes. En utilisant leur capacité à se concentrer sur la nature, les hommes repoussent les frontières et créent de nouveaux produits, que cela soit dans les domaines de la technologie, de la musique ou de la haute cuisine. Cependant, après cette conquête initiale, ce sont les femmes qui entretiennent et se chargent de la distribution des fruits de ces premiers labeurs, en préparant la majorité de notre nourriture, en jouant et en enseignant la musique au sein de la communauté locale, en se servant de tous les appareils et gadgets qui rendent nos vies plus aisées et agréables. Un autre exemple qui porte encore plus de poids, où l'homme commence et la femme complète, est celui du mariage et de la famille. C'est à l'homme d'initier le mariage. Il a besoin de poursuivre la femme, de l'épouser et de lui faire l'amour. S'il ne le fait pas, il n'y aura ni mariage ni famille. Mais si une femme n'accepte pas d'épouser un homme, de répondre à ses avances sexuelles et d'être prête à porter ses enfants, il n'y aura ni enfant ni famille. En fait, la femme a le pouvoir de faire du mariage, de la famille et du foyer une réalité. L'homme fait le premier pas, il doit le vouloir, il doit l'initier et la femme doit répondre. Par la direction de l'un et la réponse de l'autre, une famille et un foyer deviennent une réalité. Peu importe ce que les hommes produisent dans le domaine extérieur, qu'ils ramènent à la maison un sanglier ou un chèque de paye, qu'ils s'occupent d'un troupeau de yaks ou qu'ils créent un inventaire de widgets informatiques, leur travail est incomplet. Ce qui est produit doit être transformé en plats cuisinés, en foyer habitable, en vêtements de la bonne taille, en rencontres sociales et en héritage ayant de la valeur. Toutes ces choses doivent être créées, entretenues et projetées dans le futur, pour que le mandat d'une civilisation pieuse soit rempli. Les gens qui se trompent eux-mêmes pensent que l'argent est la réponse à tout. Des femmes de ménage, des cuisiniers, des chauffeurs, des décorateurs d'intérieur, des nounous et même des partenaires sexuels peuvent toujours être embauchés. On peut très bien se constituer une habitation par le biais de contrats financiers. Mais cela ne sera pas un foyer. Un foyer ne peut s'acheter. Ses ingrédients essentiels, l'engagement, la foi, l'amour, le travail, le sacrifice, un passé partagé et une semence pieuse, ne sont pas à vendre. Ces vertus humaines sont un capital spirituel et on ne les trouve que chez les hommes qui sont prêts à pourvoir en tant que mari et les femmes qui sont prêtes à construire un foyer pour les compléter. En résumé, les femmes ajoutent une grande plus-value en entretenant ce qui a été produit. Elles ajoutent de la valeur en complétant le travail que les hommes ont commencé, en particulier en portant des enfants et en construisant des foyers et des familles individuelles. À une échelle plus grande, tout comme la femme est indispensable pour bâtir un foyer, elle est essentielle dans le travail de l'édification de la société elle-même. Dans ce dernier modèle de la conquête et de la civilisation, les deux premiers modèles sont intégrés et exaltés. Par exemple, prenez la conquête de l'Ouest américain. Les hommes ont commencé la conquête de l'Ouest américain, inconnue et sans loi, et les femmes ont terminé la conquête en apportant la civilisation. Foyer, école, église et culture. J'ai été fascinée par le commentaire d'Alistair Cook dans sa série intitulée « L'Amérique, récit personnel des États-Unis ». La partie 7 est intitulée « Domestiquer un désert ». Dans la vidéo précédente, il avait développé l'idée que l'Ouest avait d'abord été exploré par des chasseurs, des mineurs et des cow-boys. Ces hommes ont appris à connaître le pays, ses ressources et ce qu'ils pouvaient produire, par exemple or, fourrure ou pâturage. Puis, dans la partie 7, il dit « Les pionniers, eux, ont introduit l'élément nouveau et stable de la famille. En fin de compte, l'Ouest a été conquis par le pionnier et sa femme, la mère de la première génération élevée dans les plaines. C'était tout à la fois la mère, la maîtresse de sa maison, la couturière, l'infirmière, la cuisinière, la comptable, la conseillère réconfortante et l'enseignante. Pour les cow-boys et les mineurs, c'était la madone des plaines intouchable. Elle a acquis, un par un, tous les symboles de respectabilité, la dignité d'un poney et d'une charrette anglaise, une maison charpentée dotée d'agréments citadins raffinés, comme du papier peint, des tapis et des tableaux. Dès 1890, c'était devenu possible pour une mère pieuse et sévère d'élever une famille respectable dans une telle maison. C'est elle qui accompagnait habituellement les cantiques de la famille et qui, le soir, lui lisait des livres, en particulier le livre saint, préservant ainsi la tradition pionnière qui dura longtemps, peut-être trop longtemps, dans la vie américaine. Cette culture-là appartenait aux femmes. Le propos est ici très joliment rendu. Les hommes ont commencé le processus d'exploration. Ils sont venus découvrir le pays. Ils ont fait connaissance avec les plaines, l'herbe, les minéraux, le potentiel. Mais les femmes les ont aidés à faire le travail de conquérir le continent et d'apporter la civilisation en les suivant et en finissant ce travail. C'est avec les femmes seulement qu'ils ont eu des foyers, des familles, des églises, des écoles, des villes. Tout cela conduit la civilisation humaine vers la maturité. Le mariage produit la vraie richesse. Dans le système divin, l'homme sort à la conquête de nouveaux horizons, repoussant les limites par de nouvelles découvertes dans la nature et par là même faisant fonctionner le système économique de l'innovation et créant de nouvelles machines et technologies. Les femmes restent en arrière pour garder, créant un véritable habitat humain. Mais lorsque le fait de construire le foyer est méprisé, il n'y a personne pour garder. Les services autrefois pourvus et préservés pour la famille par la maîtresse de maison sont alors exportés dans le domaine public. Dans ce système économique basé sur les services, la société ne produit pas de nouvelles richesses à transmettre aux générations futures. En gros, elle n'assure que de la maintenance sous la forme de fast-food, de décoration intérieure standardisée, de production de masse de vêtements, de soins institutionnalisés pour enfants et personnes âgées, et de loisirs de plus en plus vains. Là où l'amour libre est facilement disponible et le mariage découragé, il y aura une apparence de liberté et de richesse aussi longtemps que durent les économies des générations précédentes. Mais dans le système du célibat basé sur les services, le véritable moteur de la richesse et de la liberté, est abandonné. La femme aide l'homme en travaillant avec lui en partenariat. Qu'elle complète ce que l'homme a commencé ou qu'elle entretienne pendant qu'il part à la conquête, le travail de la femme est indispensable et leurs tâches respectives sont interdépendantes. La femme n'est ni objet décoratif, ni une idée après coup. Si elle n'est pas en partenariat avec l'homme, le travail que Dieu a donné aux êtres humains ne sera pas accompli. La femme aide, elle complète, elle termine ce que l'homme a commencé. Elle transforme la simple existence en vie qui soutient la civilisation. Les acquis du travail de l'homme ne subsisteront pas sans les havres de paix qu'elle met en place. Ces havres de paix ne subsisteront pas sans être défendus, avec force, par l'homme. Dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme sont interdépendants. Ils ne sont pas interchangeables. Dans une société saine, le mariage est la voie habituelle suivie par la majorité des gens. Les célibataires sont rattachés à l'unité de base du mariage en tant que fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, etc. Le fait que le mariage et la famille forment l'unité de base de la société est illustré clairement en 1 Timothée 5, versets 1 à 2, où les relations familiales sont présentées comme le paradigme et le modèle de toute relation dans l'Église. Nous devons nous considérer les uns les autres comme père, mère, frère et sœur. Ce sont là des relations propres à la famille nucléaire qui se trouvent et se fondent sur le mariage. Sans aucun doute, la vie célibataire est exaltée dans les Écritures. Élisée, Jean-Baptiste, Jésus et Paul ont tous accompli leur travail en tant qu'hommes célibataires. Cependant, il est rare d'être un eunuque pour le royaume de Dieu, et avoir cette capacité est un don extraordinaire de Dieu. Le célibat n'est pas en train de proliférer à cause de ce don extraordinaire de Dieu. Au contraire, la fragmentation croissante de la société trouve ses racines dans l'autosatisfaction individuelle et la perversion de la sexualité qui se répand dans notre culture apostate. Cette fragmentation ne conduit pas à la liberté, mais à la tyrannie. Le partenariat de l'homme et de la femme dans le travail est interdépendant et indispensable. Leur communion d'âme et de corps est exclusive et intime. Abordons maintenant la question de la direction de l'homme, du partenariat de la femme, et en quoi consiste leur rôle. L'autorité de l'homme et sa direction font-elles partie de la création bonne et parfaite au commencement en Genèse 2? Ou bien l'autorité de l'homme est-elle la conséquence du péché, de la chute et de la malédiction en Genèse 3? C'est une question charnière. La façon dont on y répond détermine si l'on va suivre le courant égalitarien et non biblique du féminisme, ou bien si l'on va préserver l'unité et l'ordre biblique. Adam a été créé le premier, Ève a été créée de lui, elle a été créée pour lui. Voilà les arguments donnés par le Nouveau Testament en faveur de l'autorité de l'homme. La façon dont Dieu a créé l'homme et la femme en Genèse 2 nous donne la base et la structure de la relation homme-femme pour toute l'histoire de l'humanité. La chute affecte profondément cette relation, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, mais la chute n'est pas la cause de l'autorité de l'homme. C'est la nature créée de l'homme et de la femme qui est la base de l'autorité de l'homme. Genèse 2 est un récit magnifique et poétique, mais c'est aussi de l'histoire authentique. Si l'homme est la tête, qu'est-ce que la femme? Quel est l'autre côté de cette analogie? La femme est le corps. Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23 dit que les maris devraient aimer leurs épouses comme leur propre corps et chercher à les nourrir et à les protéger. Christ est la tête et l'Église est son corps. En Genèse 2, nous avons la fondation de cette belle réalité. Dans ce cas, la femme est littéralement tirée du corps de son mari. Une tête et un corps en bonne santé travaillent ensemble en harmonie et unité. Si une amie s'approche de vous pour vous embrasser, ses bras se tendent vers vous, ses yeux s'illuminent, ses lèvres sourient, tout son corps bouge de concert en réponse à l'ordre de sa tête de vous saluer chaleureusement. Vous voyez de l'harmonie, de l'unité et toute une gamme d'actions qui sont biologiquement fluides. Ceci est basé sur le fait que tout son corps reconnaît la direction de sa tête. En même temps, une tête en bonne santé s'attend à recevoir une réaction constante du corps. La tête dit « Sautons dans l'eau ». Le corps met un orteil dans l'eau et renvoie le signal « L'eau est beaucoup trop froide, ne sautons pas dans l'eau ». Et la tête dit « D'accord, ne sautons pas ». Ou bien vous croisez les jambes et votre pied vous dit « J'ai des fourmillements, décroise les jambes s'il te plaît ». La tête va répondre « Ok, décroise ». Généralement, la tête fait ce qui est nécessaire pour plaire au corps, sauf s'il y a une raison spectaculaire de ne pas le faire. Malheureusement, une tête insensée ne prend pas garde aux signaux de son corps. Le corps dit « Tu manges trop, arrête !»« Tu bois trop !» ou « Tu travailles trop !» Alors la tête insensée qui ne prend pas garde aux avertissements du corps va probablement faire du mal à l'ensemble. Cependant, la tête a l'autorité et la responsabilité de faire ce qui est le meilleur pour le corps et de prévaloir sur le corps si nécessaire. Par exemple, le corps ne veut pas être percé par une aiguille, mais la tête sait que le vaccin est dans le meilleur intérêt du corps à long terme. La tête d'une personne sensée et en bonne santé va toujours faire au mieux pour le corps et va instinctivement vouloir plaire au corps, si possible. D'un autre côté, si vous voyez une tête dire « Main, prends ta cuillère » et la main lutter péniblement et refuser de prendre cette cuillère, vous penserez qu'il y a quelque chose qui va radicalement de travers. Vous supposerez que cette personne est atteinte de paralysie ou d'un autre problème nerveux. Une relation homme-femme pleine d'ordre, de résistance, de servilité ou de colère est l'équivalent spirituel d'un handicapé moteur ou d'un quadriplégique. Une relation biologique naturelle et gracieuse est détruite et remplacée par une relation machinale et tumultueuse. Quand les choses fonctionnent correctement, nous pouvons même perdre de vue la base de l'harmonie. Un chrétien et sa femme ont lu un article prônant l'absence de direction et d'une réciprocité totale dans le mariage. Cet article mettait beaucoup d'accent sur l'unité et l'harmonie dans le mariage. Le mari a dit « Cela ressemble à notre mariage. Nous avons une unité et une harmonie merveilleuses. » La femme a pouffé de rire et a répondu « Tu ne sais pas à quel point je me soumets à toi. » Elle m'a dit ultérieurement « Mon mari est un dirigeant naturel et je fais tout mon possible pour être une femme selon Dieu, alors je cherche à le suivre consciemment. Cela produit dans notre vie un sentiment d'unité et d'harmonie. » Lorsque le mari s'attache à recevoir la réponse et les réactions de sa femme, à la protéger, à s'occuper de chacun de ses désirs et besoins, et lorsque la femme s'attache à suivre et à respecter les directives et les désirs de son mari, ils vont expérimenter l'unité et l'harmonie. Vous ne verrez pas de comportement obséquieux ou tyrannique. La Bible n'utilise jamais de métaphore militaire pour parler du mariage. Ce n'est pas une bonne image de l'autorité et de la réponse maritale. C'est une image incorrecte. La bonne image est celle de l'unité biologique du corps et de la tête. L'image et la vérité historique de Genèse 2 montrent que la femme est venue du corps de l'homme pour être aimée par lui comme son propre corps. L'aspect aide complémentaire fait partie de chaque femme au plus profond de son être, qu'elle soit mariée ou non. Chaque femme doit décider si elle va chercher à aider et à compléter les hommes et ce qu'ils font, ou si elle va être en conflit et en compétition avec eux. Le désir de se marier est très fort chez presque tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Genèse 2 explique pourquoi il en est ainsi. Si vous êtes marié, cherchez à appliquer ces principes de l'aide complémentaire directement à votre mariage. Si vous n'êtes pas marié, votre succès en tant que femme et individu repose tout de même grandement sur le fait que vous honoriez ces principes et modèles sexuels. Tous ces principes, objectivité et subjectivité, conquête et entretien, risque et sécurité, tête et corps, doivent être appliqués si nous voulons nous épanouir dans notre humanité, notre sexualité et le travail que Dieu nous a donné à faire.